Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est donc l'After Live, un After Live spécial Ligue 2 ce soir. Et nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec celui qui connaît par cœur ce championnat, celui qui a réussi à aller décrocher une montée sur une dernière journée, Sébastien Piocelle, le membre de la Dream Team RMC Sport. Salut Seb.
Salut Benoît, bonsoir à tous.
Ça va, t'es en forme, t'es excité?
Ça, excité, et puis voilà, j'ai hâte qu'on démarre.
Une folle soirée en perspective, 10 clubs concernés, ils jouent une partie de leur avenir ce soir, la course à la montée, la lutte pour le maintien. Je vous donne les 10 affiches de la soirée: Bastia Le Havre, Annecy Bordeaux, Sochaux Metz, Caen Saint-Etienne, Dijon Paris FC, Guingamp Niort, Laval Nîmes, Quevilly Rouen, Amiens Rodez Pau et Valenciennes Grenoble. On fera un point complet sur tous les enjeux dans un instant avec Johan Bredob. Salut Johan.
Salut les gars, salut à tous.
T'as bossé Johan?
Ah, bien sûr que j'ai bossé, j'ai tous les enjeux en tête.
Il y a passé l'après-midi.
C'est vrai, il y a un classeur devant lui.
Bravo, c'est impressionnant. Allez messieurs, l'After Live spécial 37e journée de Ligue 2, c'est parti. Et l'autre événement de la journée, avant de parler Ligue 2, évidemment Seb, ça te concernait également, toi le Marseillais, ce sont les célébrations des 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions en 93. On va tout de suite retrouver notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Salut Flo.
Salut Benoît, salut Seb, salut à tous. Salut.
Une folle soirée, déjà c'était une folle après-midi avec le Super Moscato Show délocalisé à Marseille. Et l'événement de la soirée, Flo, c'est à l'Hôtel de Ville avec la rediffusion de la finale ce soir. Hein.
Coup d'envoi imminent, je suis stressé. Franchement, j'espère que ça va bien se passer. Je sens bien un petit 1-0 et un but sur coup de pied arrêté. À mon avis, les détails vont faire la différence.
Sur Basile.
Ouais, pourquoi pas un but de Basile, en tout cas un petit coup de tête. Non, mais c'est vrai que c'est une ambiance sympa. Vous entendez derrière moi, il y a de la musique. Je suis vraiment au pied de l'Hôtel de Ville où il y a une grande bâche, une bâche géante à jamais les premiers, avec notamment évidemment la bonne mère en bonne place, l'étoile, le logo de l'Olympique de Marseille, et puis le nom de tous les groupes de supporters, et puis en immense à jamais les premiers 1993. Il y a quelques instants un discours du maire Benoît Payan, de Laurent Tapie aussi, qui a confirmé devant je pense qu'il y avait 2-3 000 personnes, voire plus, hein. C'était quand même une belle foule amassée au pied de l'Hôtel de Ville au moment des discours, où on a confirmé qu'il y aurait une esplanade Bernard Tapie, qu'il y avait un appel aux dons pour également une statue à l'effigie du boss et de plusieurs joueurs. Et justement, les joueurs sont arrivés, alors pas tous, mais il y avait notamment Éric Dimeco, Fabien Barthez, Basile Boli, Jocelyn Andloma, et évidemment ça a mis en transe beaucoup de supporters et beaucoup de jeunes aussi, hein. C'est ça qu'il faut je pense souligner, c'est que il y en a qui ont 10, 15, 20, 25 ans, je vous fais pas de dessin, ils étaient pas nés en 1993, mais ils s'approprient aussi cette fierté de supporter un club qui a cette étoile. Donc diffusion du match dans un petit instant, là c'est le coup d'envoi qui est imminent de ce OM Milan 93. Et puis ensuite il y aura un craquage géant de fumigène, une chaîne humaine de quasiment 20 km.
Incroyable.
Sur tout le littoral marseillais, ouais. Pour ceux qui connaissent, de l'Estac jusqu'à la Pointe Rouge, en fait il y aura donc une chaîne humaine, et puis le coup d'envoi ce sera depuis Notre-Dame de la Garde quand les Dodgers vont allumer les fumigènes.
Incroyable.
Du côté de la bonne mère, ce sera le coup d'envoi, et là tout le monde pourra brandir son fumigène. 8000 fumigènes prévus. Voilà, donc c'est
aux alentours de 23h d'ailleurs, Flo.
Aux alentours de 23h, quand il fera bien nuit.
Des images que vous pourrez suivre sur BFM TV. Question pour toi, Florent Germain, ton fils, il a vu cette finale de 93 déjà?
Tu rigoles ou quoi? Mon fils
oui, il la connaît par cœur. Bon,
okay. Ah oui, non, mais je pensais que tu disais s'il l'avait vu de son propre vécu.
Non, d'accord.
Ah,
est-ce que tu lui as montré le match? Est-ce que tu l'as déjà montré?
Il connaît tout par cœur. Il connaît tout par cœur, il n'y a pas de souci.
C'est bien.
Il a eu les livres qu'il fallait, il a eu l'éducation qu'il fallait. Il connaît le corner de Pelé, la tête de Boli. Bon. T'inquiète pas pour lui. Et j'espère, parce que si je peux terminer là-dessus, j'espère effectivement que beaucoup de minots qui ont beaucoup de mérite d'aimer autant l'eau avec passion, seront aussi servis dans les années qui viennent.
Bien sûr.
Dis pas l'année prochaine ou dans deux ans, mais qu'eux aussi pourront vivre de leur propre vécu, de leurs propres yeux, de grandes victoires comme celle du 26 mai 93.
Seb. Flo, les joueurs que tu as cités là participent aussi après au jubilé d'Éric Dimeco.
Exactement. Alors après, c'est une soirée mi-privée, mais tout le monde est au courant dans Marseille quand même.
Hein. Donc, a priori, il y a un parterre incroyable. Enfin, c'est impressionnant. les
évidemment,
personnes
il y a énormément de monde bah, à la hauteur du personnage, ouais, Eric Dimeco qui est très connu mais aussi très généreux, donc quand il fait son jubilé, ses 60 ans aussi, en plus avec ses 30 ans de la Ligue des Champions, il fallait marquer le coup et inviter du beau monde. Ils auront une belle vue de là où ils seront d'ailleurs, c'est pas clair. Loin de l'Estac pour voir ces fumigènes dont je parlais tout à l'heure.
Magnifique soir en perspective, on se retrouve d'ailleurs tout au long de la soirée sur RMC. Merci Flo Germain, à tout à l'heure, donc rediffusion de la finale de 93 sur la place de l'Hôtel de Ville à Marseille. 20h06 sur RMC, l'événement c'est donc la Ligue 2, cette 37e et avant-dernière journée. Je vais vous rappeler tout de suite le classement, c'est ce qui nous intéresse, avec deux points chauds, évidemment la lutte pour la montée en Ligue 1 et puis aussi la lutte pour le maintien. Le classement qui nous intéresse, Le Havre leader avec 71 points, deuxième Bordeaux avec 69 points, troisième Metz avec 66 points. Ce sont les trois clubs qui luttent pour monter directement en Ligue 1. Les deux premiers montent en Ligue 1 et puis en bas de tableau, on l'a dit tout à l'heure avec Johan Bredov, 7 clubs sont concernés par la descente. Ça part de Amiens 12e avec 44 points jusqu'à Laval qui est 18e avec 40 points. On l'a dit, donc le grand enjeu de la soirée c'est la montée en Ligue 1. Le Havre, le leader, est sur la pelouse de Bastia, Bordeaux 2e sur la pelouse d'Annecy, Metz 3e sur la pelouse de Sochaux. Johan, tu nous fais un point sur la situation, qu'est-ce qui peut se passer ce soir pour ces trois clubs?
Deux cas de figure pour que Le Havre monte ce soir en Ligue 1. Le plus simple, c'est une victoire à Bastia, là ça sera fait quoi qu'il arrive.
Victoire c'est fait pour
Le Victoire Havre. C'est fait pour Le Havre. Mais si les Havrais font nul ou perdent en Corse, ils pourraient tout de même voir leur montée validée si le FC Metz ne gagne pas à Sochaux. Voilà pour les deux possibilités pour le hack, pour la montée. Il y a même une possibilité d'être sacré champion ce soir, seulement s'il y a victoire et que dans le même temps Bordeaux ne gagne pas. Et justement, pour Bordeaux, l'accession en Ligue 1 est possible aussi tout à l'heure si les Girondins font un meilleur résultat que celui de Metz. Victoire et nul de Metz ou défaite, etc. etc. Faut prendre plus de points que les Messins. Pour les Messins, on l'aura compris, on va faire simple, une victoire est quasi obligatoire.
Ouais, pas le droit à l'erreur.
Voilà, il peut y avoir une défaite ou un match nul, mais il faudrait que Bordeaux perde ou fasse match nul également.
Et autre précision importante, Le Havre pourrait même être sacré champion de France de Ligue 2 dès ce soir s'il y a victoire à Bastia et si Bordeaux ne gagne pas à Annecy. Comment tu vois cette soirée? Ce sont des moments que tu as vécu, Sébastien Pessel, je le disais tout à l'heure, notamment avec Arles Avignon, une montée sur la dernière journée. On est comment là, comme ça, à 40 minutes du coup d'envoi? On est surexcité, on est concentré, on est tendu?
Ouais, on est focus. Après, tout dépend de la position des clubs. Je pense au Havre qui, on le répète nous depuis des semaines et on leur répète à eux aussi, auraient déjà dû certainement valider leur montée. Donc c'est vrai, c'est comme quand on est un peu à 12 au boule, c'est-à-dire mettre le 13e point, c'est jamais évident non plus. Maintenant, bon, je pense que l'équipe la plus en difficulté, ça reste Metz. Alors que moi, je les pensais lancer pendant un moment.
Metz qui est invaincu depuis le 24 octobre. Hein.
Ouais, mais finalement, le dernier nul, ça les a mis dedans parce que Bordeaux carbure et même si le Havre a loupé deux balles de match, voilà, ils sont quand même en difficulté. Mais c'est vrai qu'il y a de l'adrénaline. Bon, là, en l'occurrence, c'est quand même trois équipes qui se déplacent, donc c'est pas le fait de jouer à domicile, alors il y a de la pression, mais c'est encore un peu différent le fait d'être à l'extérieur aussi. Et puis en fonction aussi des adversaires, je vois Sochaux qui reçoit Metz. Sochaux, ils ont complètement craqué. Donc alors que par exemple Bastia qui n'a plus rien à jouer joue son dernier match à domicile, ils auront envie certainement d'enquiquiner un petit peu cette équipe du Havre. Donc et puis Annecy qui a encore la possibilité de se sauver. Donc c'est trois matchs complètement différents.
Avant de retrouver nos différents correspondants dans un instant, cette dernière question pour toi, est-ce que dans ces cas-là, lorsqu'on est concerné, lorsqu'on fait partie de ces clubs qui sont en lutte pour la montée, est-ce qu'on se tient informé du résultat des autres?
Oui.
Et est-ce qu'on le communique aux joueurs?
Alors communiquer aux joueurs, je sais pas. Alors mais en tout cas, c'est sûr que une partie du banc, c'est obligatoire. Après, tout se sait, et puis en fonction un petit peu de
la réaction du public, même s'ils sont à l'extérieur, les trois.
Mais oui, ça communique, ça c'est sûr que c'est obligatoire.
Dans un instant sur RMC, il est 20h09. Dans un instant, on se retrouve justement pour les différentes compos de ces trois matchs qui vont nous intéresser. Bastia Le Havre, Annecy Bordeaux et Sochaux Metz. On retrouvera nos correspondants. On sera un point également sur la lutte pour le maintien. C'est important. Plusieurs clubs jouent leur peau. Il y a des infos à retenir et un club qui pourrait être relégué dès ce soir. Johan va tout nous dire dans un instant. Restez avec nous. On est là jusqu'à 23h pour vous faire vivre en live cette 37e journée de Ligue 2. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Benoît Boutron.
20h12 sur RMC, l'After Live, un After Live exceptionnel ce soir autour de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2. Il y a beaucoup d'enjeux, les matchs démarrent à 20h45, vous ne raterez rien. On est là avec Sébastien Piocel donc pendant 3 heures. Justement, les matchs vont démarrer donc dans un peu plus d'une demi-heure. On a fait le point sur la course à la montée. Donnons les enjeux de la lutte pour le maintien. Johan Bredov, je le disais, il y a 4 équipes qui seront reléguées à l'issue de la 38e journée. On connaît déjà 2 relégués, un New York 19e, New York 20e et Nîmes 19e. Explique-nous un peu la situation des autres parce que c'est assez compliqué et 7 clubs sont concernés d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, tu l'as dit, 7 clubs qui vont lutter pour ne pas accompagner Nîmes et New York National. Il y a une équipe qui a son destin entre les mains, c'est Amiens, 12e, 44 points qui en cas de victoire sera assuré de rester en Ligue 2. Un nul pourrait suffire en fonction des résultats des équipes derrière. Pour Rodez, Valenciennes et Annecy, une victoire aussi pourrait être synonyme de maintien. Mais là encore, faudra regarder les résultats derrière. Et il y a surtout un club qui peut être condamné ce soir, c'est Laval. Si Laval perd et que Dijon, Annecy et Valenciennes gagnent, ah oui, alors les Lavallois seront relégués en national. Donc il y a beaucoup de conditions quand même, ouais, pour que ça se passe.
Il faudrait perdre contre une équipe qui est déjà reléguée en national et que 3 autres adversaires, concurrents directs plutôt, s'imposent. 20h13, on y va. Sébastien, un de tes anciens fiefs, direction Fouriane. Bastia, juge de paix de la course à la montée. Les Bastiais reçoivent le Havre ce soir, se déplaceront à Metz vendredi prochain. On suit ce dernier match à Fouriane de la saison avec Julien Pernitsch. Salut.
Salut des Benoît, salut des Seb.
Salut. Bon, un point sur les compos, notamment la compo havraise, c'est ce qui nous intéresse, Julien.
La compo havraise, il y a des changements puisqu'il y a des suspendus et des blessés. Donc du côté du Havre, c'est Desmas dans les buts, une défense El Hadjam, Kinkoué, Loris, Opéry. Au milieu, ce sera Lekal, Targaline et Bemba. Et en attaque, Casemir, Mahmoud et Richardson, puisque Alioui est forfait de dernière minute en attaque. Et puis il y a les suspensions de Cornet, Sanganté et Thiaré.
Eh oui, des coups durs, notamment Sanganté, le patron de la défense. Tu veux y aller sur la compo Bastiaise, vas-y.
Allez, on y va. C'est la même compo capo, donc Placide dans les buts, Caïbou, Guidi, Palin dans l'axe, Tavares, Van Kerkhoff en piston, Salamon, Gé Ducrot au milieu, puis en attaque, Djoko, l'intenable Magri en pointe et ouais, Benjamin Santé.
Coup d'envoi à 20h45 comme tous les autres matchs et je vous propose d'accueillir Christophe Lécuyer qui n'est pas à Fouriane mais qui lui est à Dornano. Il va suivre également ce magnifique Caen Saint-Etienne. Salut Christophe.
Salut Benoît, bonsoir à tous.
Christophe, on aura le temps de se poser également sur ton match. L'événement de la soirée, c'est l'hommage qui sera certainement rendu à Stéphane Moulin. C'est
son
dernier match à domicile, lui qui va quitter le club à l'issue de la saison. Mais tu suis le Havre depuis de nombreuses années. Tu sais quel événement ça représente pour cette ville et ce club. Et est-ce que tu as des infos en inside? Comment s'est passée la semaine? Est-ce qu'on est un peu tendu après les 2 défaites consécutives concédées les 2 dernières journées, je le rappelle, face à Annecy 1-0 et face à Valenciennes, c'était lundi 2-0.
Ouais, bah, t'as parfaitement résumé la situation, hein, Benoît. On rappelle quand même que cette équipe, elle n'avait perdu qu'une fois de la première à la 34e journée avec cette défaite lors des matchs allés à Valenciennes. Alors certes, il y a 10 jours ce revers concédé à Annecy 1-0. Ah, on n'avait pas pu s'empêcher de penser que peut-être les Havrais n'avaient pas non plus donné 100% parce qu'ils voulaient plutôt fêter la montée à domicile avec leurs supporters, justement face à Valenciennes lundi dernier. Sauf que voilà, bis repetita, nouvelle défaite, cette fois-ci donc concédée au stade Océane, dans un stade qui était quasiment plein. Et alors celle-là, vous vous en doutez, elle n'était pas du tout prévue, cette défaite. On avait déjà préparé évidemment les festivités pour la montée, c'est bien logique, parce qu'on ne voyait pas comment les Havrais, invaincus cette saison à domicile, pouvaient eh bien caler face aux Valenciennois qui certes jouaient un match pour leur survie. Lucas Elsner d'ailleurs n'a pas caché sa colère à la fin du match, hein, il a parlé d'un manque d'humilité de la part de certains de ses joueurs. Alors évidemment, cette semaine on a voulu afficher une certaine sérénité, mais on ne peut pas empêcher Benoît de penser que cette sérénité, elle est surtout de façade, parce que voilà, les Havrais certes ont quand même toujours un pied en Ligue 1, ils sont toujours leaders, on le rappelle. Vous avez, ouais, rappelé les différents scénarios qui pourraient permettre aux Havrais de monter dès ce soir. Sauf que voilà, quand vous avez perdu une fois en 34 matchs et que vous perdez 2 fois sur 2 journées consécutives, ça ne peut pas ne pas cogiter dans les têtes, surtout que vous l'avez dit fort justement, il y a énormément d'absents ce soir. Cornet, Sanganté, Thiaré suspendu, c'est quand même des éléments incontournables du dispositif de Lucas Elsner. Alioui blessé de dernière minute, effectivement touché aux adducteurs et à la cheville. On va quand même débuter
tu
avec.
Tu peux rajouter Keshta, même ça fait un petit moment, mais n'empêche, on disait que depuis qu'il est absent,
ouais, ça correspond au début des mauvais résultats.
Ouais. Kinkoué va être titulaire dans la défense centrale, 2e titularisation seulement pour lui. Et puis on s'oriente vers un binôme Mahmoud-Casimir aux avant-postes. C'est un but pour les deux. Ouais. Donc évidemment, on part quand même avec pas mal d'incertitudes ce soir dans les 11 de départ du Lucas Elsner. On peut clairement dire que c'est pas une situation idéale pour aller jouer une montée ce soir au stade de Furiani, même s'il restera éventuellement encore une balle de match évidemment à jouer à la maison derrière face à Dijon.
Sébastien, si tu fais partie du staff havrais, qu'est-ce que tu dirais à tes joueurs? Tu dirais qu'il faut aller chercher la gagne impérativement, ou tu dirais que même un nul serait déjà un bon résultat? Tu aborderais ce match à Bastia avec prudence, ou tu dirais il faut jouer comme d'habitude, aller chercher la gagne?
Non, il va jouer comme d'habitude en ce moment, ça serait.
Ouais, mais c'est une équipe qui produit du jeu, qui a mal à se créer des occasions, mais qui tient le ballon.
Tu peux pas changer d'optique là à deux journées de la fin, surtout quand tu vois quand même le parcours qu'ils ont réalisé. Certes, il y a eu ces deux défaites de suite qui ont retardé les chances, mais non, il faut jouer leur jeu. Bastia est une équipe en forme qui joue, comme on le disait, sa dernière à domicile. Offensivement, à l'image de Magri, ça carbure. Mais voilà, justement, il va y avoir aussi des espaces parce que je pense que Bastia va jouer le jeu complètement d'ailleurs. Et non, jouer le jeu. Ils ont quoi qu'il arrive ce match face à Dijon. Mais bon, ils ont la possibilité au moins d'aller prendre un point, mais je pense pas que ça soit le discours de dire voilà, on y va, on prend au moins un point. Enfin, je le vois pas comme ça en tout cas.
Allez, prenons tout de suite la direction d'Annecy. C'est un autre point chaud de la soirée, évidemment, parce que là, les deux équipes sont concernées par les différents enjeux. La lutte pour le maintien, la course pour la montée en Ligue 1. Annecy reçoit Bordeaux, match qui sera commenté par Edouard G, le local de l'étape. Salut Edouard.
Salut Benoît, salut Seb, bonjour à tous.
Allons-y pour les compos, Edouard, vas-y.
Alors Gaëtan Poussin donc dans les buts pour cette équipe de Bordeaux. La défense, ben, en tout cas c'est l'équipe de la semaine dernière hein. Donc Bokele, le Norvégien Gregersen avec Johan Barbet, la charnière centrale là, qui tient vraiment la maison, avec Nsimba pour prolonger la défense, donc de droite à gauche. Au milieu, Franck Sergio et Mwanga. Ensuite Bakwa et David Tachvili, il faut que j'arrive à le dire, David Tachvili, le Géorgien, et puis bien sûr devant Maja et Badji. Voilà pour cette équipe de Bordeaux qui aura fort à faire face à l'équipe d'Annecy. On sent beaucoup de calme, elle qui joue le maintien, mais qui a quand même déjà battu des gros ici. Elle peut s'appuyer sur justement ce savoir-faire dans ces moments-là.
Et je vous rappelle l'enjeu pour les Girondins de Bordeaux. Ils seront officiellement promus en Ligue 1 ce soir. S'ils gagnent à Annecy et que Metz n'arrive pas à gagner à Sochaux, ou alors s'ils font match nul à Annecy et que Metz perd à Sochaux, c'est aussi simple que ça. Comment tu sens les Girondins qui eux ont fait la bonne opération sur la dernière journée, qui sont sur une bonne dynamique, beaucoup de clean sheet, beaucoup de matchs sans prendre de but, des défenseurs performants également qui marquent des buts? C'est vraiment l'équipe en confiance des trois prétendants à la montée, celle-là.
Moi, je les sens serein, la calée entre les deux. Bon, ils ont quand même ces trois points d'avance sur Metz. Et même si moi, à un moment donné, il y a encore 3-4 matchs, je sentais plus Metz par rapport à la dynamique. Alors on sent quand même une équipe qui s'est trouvée. D'ailleurs, on voit encore une fois, c'est le même 11 qui est aligné d'entrée. Il y a de grosses possibilités offensives, et même les défenseurs marquent. Donc, par contre, en face, il y a Annecy aussi qui est capable du meilleur comme du pire. Hein. C'est un petit peu comme ça que je vois cette équipe cette saison. Certainement que le stade sera plein. Donc, je pense pas que ça sera un match piège parce que les Bordelais sont prévenus. Mais je les vois pas, en tout cas je les vois pas perdre à Annecy ce soir.
Bon, on suivra ça évidemment 20h45, merci Edouard. Ce Annecy-Bordeaux, et le troisième prétendant à la montée en Ligue 1, c'est donc ce club du FC Metz. Metz en déplacement à Bonal pour affronter un FC Sochaux malade. Salut Patrick Muller.
Salut Benoît, salut Seb, salut tout le monde.
Tu as les compos toi aussi sous les yeux.
Exactement, avec la compo du FC Metz, pas beaucoup de surprises, hein. C'est celle qui était annoncée. Oukidja dans les buts, de gauche à droite en défense, Udol le capitaine, Kandé, Traoré, Kouaou, trois joueurs au milieu de terrain, Ndoram, Jean-Jacques pour la partie défensive, Maziz pour l'animation, à droite Diallo, à gauche Sabali, et à la pointe de l'attaque inévitable Georges Mikotadze, meilleur buteur de Ligue 2 avec 23 buts inscrits. Et du côté de Sochaux, beaucoup d'absents et pas mal de jeunes qui ont été appelés par ce duo, Pierre-Alain Fro et Sylvain Monsoreau, puisque Olivier Guégan a été démis de ses fonctions il y a une dizaine de jours de cela. Prévost dans les buts, Agouzoul, Meda en charnière centrale, Armougom à gauche, Fossurier à droite, Kanouté, Kaloulou, Alvero au milieu de terrain, Dossou à droite de l'attaque avec Pereira de Sa son pendant côté gauche, et à la pointe de de cette animation offensive, ce sera Sissoko.
Alors on connaît l'enjeu pour le FC Metz. Parle-nous du climat qui règne à Sochaux. Pour ne rien te cacher, Patrick, dans le podcast Ligue 2 BKT, le débrief à retrouver sur les applis d'RMC, j'étais avec Gaëtan Weisbeck la semaine dernière, qui me disait c'est la pire période que je traverse sous le maillot sochalien. C'est terrible, 6 défaites d'affilée. On a longtemps cru que Sochaux allait pouvoir se mêler à la lutte pour la montée en Ligue 1. Le contexte est pesant. Quelle est l'ambiance au stade déjà, Patrick?
Bah écoute, pas beaucoup de monde, mon cher Benoît. Ouais. Pour l'instant, ça tarde un petit peu à se garnir. C'est vrai qu'il y a une pesanteur autour de cette rencontre. Tu l'as dit, 6 défaites consécutives. L'objectif premier de ce duo dont je viens de parler et que vous connaissez, Pierre-Alain Fraud et Sylvain Monsoro, même si c'est Pierre-Alain Fraud qui officiellement officie, l'objectif c'est de terminer dignement, je cite, à domicile devant les supporters au terme de cette saison qui distille, qui aura vu des choses quand même. Tout n'aura pas été à jeter, mais c'est vrai que là ils se sont complètement effondrés dans le Money Time avec ces 6 défaites consécutives, alors qu'on les pensait vraiment en capacité de se mêler à la lutte pour le maintien. On est dans une ambiance de fin de cycle un petit peu, Benoît, ouais. Hein, parce que voilà, il y a un directeur sportif qui arrive, il y a un changement aussi à la tête du centre de formation, il y a Olivier Gagan qui a donc été remercié, des purs produits du centre de formation sur le banc, hein, Pierre-Alain Fraud qu'on ne présente pas bien évidemment, qui a 200 matchs de Ligue 1, enfin 200 matchs en tout cas avec Sochaux, et Sylvain Monsoro qui en a une certaine quantité aussi, 145 matchs au début des années 2000 et 80 buts, hein, pour paf, Pierre-Alain Fraud qui a aussi un gros pif, mais ça c'est méchant, c'est gratuite, voilà, ça aurait pu être les deux, pif paf. Non mais blague à part, c'est vrai qu'il y a une ambiance un petit peu de moment un petit peu charnière, quoi, d'une certaine manière. On veut terminer cette saison si possible avec un résultat positif pour stopper l'hémorragie, ouais, et pour impulser peut-être une nouvelle dynamique pour la saison prochaine.
Sébastien Pucelle, est-ce que finalement c'est plus facile ce contexte pour Metz par rapport au Havre et à Bordeaux, parce que Metz est condamné à gagner, donc finalement il y a moins de questions à se poser peut-être. On va moins surveiller ce que font les autres.
Je sais pas si c'est plus facile. C'est, comme vous êtes là, c'est un match. Ils ont 3 matchs vraiment différents.
On voit ça comme une demi-finale.
Ouais, voilà. Enfin, eux ils ont plus rien à calculer. De toute façon, ils doivent s'imposer à Sochaux, qui est une équipe complètement en perdition. Alors, certes, quand il y a un changement d'entraîneur, là, on voit, il y a quand même beaucoup d'absents du côté sochalien. Donc, peut-être qu'aussi Sochaux va jouer un petit peu libéré. Il y a pas beaucoup de monde. Au contraire d'un match à Annecy pour Bordeaux, par exemple.
C'est à l'avantage des Messins, tout ça.
Ouais, complètement. Je pense que là, s'ils font ce qu'il faut pendant les 90 minutes avec le talent que l'on sait, d'ailleurs, c'est le même 11 de départ. La semaine dernière, bon, ils ont fait match nul, mais ils ont les cartes en main pour gagner ce match. Après, ils n'ont pas les cartes en main au niveau du classement.
Exactement. Merci, Patrick. Coup d'envoi 20h45. C'est 3 matchs pour la course à la montée en Ligue 1. On vous le répète, évidemment, Le Havre à Bastia, Bordeaux à Annecy, Metz à Sochaux. On revient dans un instant sur RMC, l'After Live consacré à la Ligue 2, la 37e journée. On va faire le point sur la lutte pour le maintien, les 7 clubs qui sont concernés. On retrouvera le reste de nos correspondants. Et Johan Brenov est toujours là. C'est lui qui tient les comptes ce soir. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Benoît Boutron.
20h29 sur RMC, l'After Live spécial Ligue 2 avec Sébastien Piussal. On est là, on est excité. Et oui, c'est l'avant-dernière journée du championnat. Il y a beaucoup d'enjeux en haut et en bas du classement. On a parlé du haut avec les 3 prétendants à la montée en Ligue 1, Le Havre, Bordeaux et Metz. On suivra ces matchs avec beaucoup d'intérêt. Nous allons également suivre la lutte pour le maintien. Et on le disait avec Johan Bredov, cela concerne 7 clubs. 2 clubs sont d'ores et déjà relégués en national. Il s'agit du Nîmes Olympique et des Chamois Niortais. Mais les 7 autres concernés, qui sont-ils,
Johan Bredov? Troisième pourrait être relégué en national. C'est Laval qui peut être condamné ce soir si les Lavallois perdent et que Dijon, Annecy et Valenciennes gagnent. Il y a beaucoup de circonstances. Sinon, on a une équipe qui a son destin entre les mains. C'est Amiens, 12e quand même. Hein, ça va jusqu'au 12e avec 44 points. Qui, en cas de victoire, sera assuré de rester en Ligue 2. Et même un nul qui pourrait suffire en fonction des résultats derrière. Et ensuite, on a Rodez, Valenciennes, Annecy. Là aussi, une victoire pourrait être synonyme de maintien. Mmh. Mais là encore, faudra regarder ce que font Dijon, Pau et Laval.
Et dans un instant, on parlera du Dijon de Pascal Duprat. Hein, évidemment, cette remontée fantastique pour le coach Duprat, l'effet Duprat. Évidemment, 7 matchs sans défaite, 4 victoires et 3 nuls. On trouvera Fred Joly. Mais retour d'abord dans l'ordre du classement. Retour donc à Annecy, Edouard G. Pour ce Annecy-Bordeaux, je le disais, c'est le seul match de la soirée où les deux équipes ont chacune beaucoup d'enjeux. Parle-nous du contexte annécien. Comment ça se passe? Est-ce que le parc des sports est plein justement pour soutenir cette équipe qui était tout de même demi-finaliste de la Coupe de France? C'est quand même pas rien, Edouard.
Oui, 13 000 personnes attendues. Ils seront là, toutes ces personnes, pour soutenir cette équipe, oui, qui, à cette époque de ce grand passage en Coupe de France, notamment avec cette demi-finale ici face à Toulouse, eh bien, mine de rien, au mois de mars, cette équipe avait 10 points d'avance sur la zone de relégable.
Hein,
alors que le début de saison avait été catastrophique. 3 défaites.
C'est Nantes dans le milieu.
Alors ils vont peut-être arrêter l'hémorragie, ils l'ont un petit peu arrêté avec la victoire face au Havre, mais pour l'instant c'est un petit peu les occasions manquées, parce que la semaine dernière à Niort ils ont manqué un pénalty, il y avait aussi des actions toutes faites à la dernière minute qui auraient pu permettre une victoire, il y a eu aussi une égalisation à QRM à la dernière seconde qui les a privés d'une victoire. Bref, c'est un petit peu les occasions manquées pour l'équipe de Laurent Guillaume, mais alors je peux vous dire qu'il y a du calme intégral chez les joueurs et chez les dirigeants annéciens, parce que ben voilà, déjà l'année dernière ils ont vécu la montée à la dernière journée, le maintien, la montée de CFA en national aussi à la dernière journée, le maintien il y a deux ans en national à l'avant-dernière journée. Bref, les fins de saison un petit peu chaotiques, ils savent ce que c'est, donc ils ont les nerfs pour cela, notamment avec un Laurent Guillaume qui amène beaucoup de calme dans ses propos, dit ben voilà, nous on est à notre place.
On s'attendait pas à voir Annecy dans cette position à deux journées de la fin, c'est vrai, ils nous ont ravis en Coupe de France, ils se sont imposés à Marseille au Vélodrome, rappelle-toi, avec cette séance de tir au but. C'est surprenant de les voir là, après ils sont promus et eux ils savaient qu'ils seraient dans le combat, c'est là.
Ouais, certainement, surtout quand on voit le début de saison catastrophique. Alors comme disait Edouard, donc souvent on dit que l'équipe est à l'image de son entraîneur, mais c'est exactement ça. Laurent Guillaume, c'est quand même la sérénité incarnée. Après, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait un résultat important face au Havre, et derrière, face à Niort, ils auraient pu se retrouver avec deux points de plus et oui, égalité avec Amiens. T'as et raison. Donc quasiment sauvé. Maintenant, c'est un club qui est habitué, qui a été en reconstruction. Il y a 13 000 personnes ce soir. Ça pompe beaucoup d'énergie aussi, toute coupe, on va dire, et là, en l'occurrence, la Coupe de France. Donc voilà, il reste deux journées de championnat. Ils ont l'opportunité en plus face à une équipe qui joue quelque chose, donc qui va aussi se livrer quelque part. Donc c'est bien, c'est intéressant aussi de jouer face à une équipe qui se livre. Il y aura aussi des espaces. Maintenant, ils sont habitués aussi à battre des grosses formations.
Allez, tout de suite, Sébastien, allons voir un homme qui souffre. Un homme qui souffre en Ligue 1 et en Ligue 2, c'est Fred Joly. Évidemment, ces clubs sont concernés par la lutte pour le maintien dans les différentes divisions. Salut Fred.
Salut Benoît, salut Seb.
Salut Fred. Et tu es à Gaston Gérard pour ce Dijon Paris FC. Les Parisiens n'ont pas grand chose à jouer. Ils sont 7e de Ligue 2, donc pas d'espoir évidemment de monter ni de lutte pour le maintien. En revanche, Dijon poursuit sa remontada sous Duprat. On disait 7 matchs sans défaite. Est-ce que tu peux nous faire un point sur la compo dijonnaise d'ailleurs, Fred?
Alors, la compo dijonnaise avec René dans les buts, une défense à 4, Fofana à gauche, Joly à droite, Touré, Congré dans l'axe, Alain Bi et Thune à la récupération, Soumaré en soutien de Le Bihan, Aké est titularisé sur le côté gauche car Sylvain est out, il a eu une commotion cérébrale après un choc lors du match face à Nîmes, Chaouna sera à droite. Du côté du PFC, Filipovic dans les buts, Dabila, Bernoer, Le Flore, une défense à droite pour le PFC, un milieu à 5 avec Mandouki, Lopez, Sanogo, Chahiri et Masson, et devant Amel et Kebal.
Quel est le climat à Dijon, mon cher Fred Joly? On le disait, Pascal Duprat a redonné de l'espoir à ce club qui était très mal embarqué justement dans ce championnat de Ligue 2. On les voyait déjà relégués en national. Il est arrivé, 7 matchs, 4 victoires et 3 matchs nuls. Dijon est même hors de la zone rouge à l'heure où on se parle. Dijon est 16e pour l'instant avec 41 points, même nombre de points que Pau, mais une meilleure différence de but. Quel est le contexte à Dijon alors, Fred?
L'ambiance est bonne. Imaginez 15 000 spectateurs attendus à Gaston Gérard. Oui, on va être à un guichet fermé. Alors, c'est un guichet fermé un peu particulier. On ne peut plus acheter de place au guichet du stade, mais on peut encore en trouver quelques-unes sur Internet. Enfin, là, ça va devenir de plus en plus compliqué à 10 minutes du coup d'envoi. Le bus a été accueilli par des supporters avec des fumigènes, une vraie ambiance d'accession presque. Et ce n'est pourtant que le maintien que joue le DFCO. Les supporters ont répondu présent et Pascal Duprat aura peut-être, si tout se passe bien, une statue devant la cathédrale de Dijon payée par Delcourt, le président dijonnais, car il est en train de réaliser un véritable exploit. Faut pas oublier que quand il est arrivé début avril, Dijon était 19e avec 26 points. 7 matchs plus tard, 4 victoires, 3 nuls. Dijon se retrouve 16e avec 41 points et encore une chance de décrocher le maintien en Ligue 2.
Alors, le calcul est particulier tout de même pour les Dijonnais, Sébastien Piocel, parce qu'il y a ce match face à des Parisiens qui n'ont rien à jouer. En revanche, la dernière journée, ce sera sur la pelouse du Havre. Le Havre qui n'aura peut-être pas forcément assuré sa montée en Ligue 1 ou qui pourra peut-être aller décrocher son titre de champion de France de Ligue 2. Donc le dernier match sera compliqué quoi qu'il arrive pour les Dijonais. Est-ce qu'à ton avis, on se dit à Dijon qu'il faut impérativement gagner surtout ce match face au Paris FC?
Ouais, complètement. Mais c'est une situation un peu étrange parce que ils sont sortis de la zone rouge. Ils reviennent de vraiment de loin. Ils sont juste au-dessus. Mais Attention parce que là il reste deux matchs, comme tu l'as dit, donc il y aura ce dernier match au Havre, et même si le Havre a déjà acté l'accession, ils auront certainement envie de gagner ce match devant leur public pour la dernière rencontre. Et là, et le PFC, on connaît aussi les qualités du PFC à l'extérieur, ça va très vite devant. Attention qu'il ne se fasse pas non plus ouvrir, parce que là tout le monde dit il y a 7 matchs sans défaite, 4 victoires, 3 nuls. Il reste 2 journées. Ouais. C'est là il ne faut vraiment pas,
pas s'endormir.
Ouais, parce que bon, quand on regarde le classement, ils sont juste devant la ligne, ils sont juste devant Pau.
À différence de lui.
Donc attention, sans enlever le très bon travail de M. Duprat.
Merci de le souligner, Sébastien Piocelle. Et puis dernier match qui va nous intéresser, où on a envoyé un correspondant, évidemment, c'est à Francis Lebasser pour ce match entre Laval et Nîmes. Les Lavallois croient dur comme fer en leur maintien. Ils sont 18e pour l'instant de Ligue 2 avec 40 points. Ils ont un point de retard sur Dijon. Ils affrontent un club qui est déjà relégué national, le Nîmes Olympique. Match qui est commenté par Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Benoît. Salut Sébastien.
Salut Xavier. Tu as la compo lavalloise, Xavier.
Oui, la compo lavalloise dans un Francis Lebasser qui est à guichet fermé. Donc ils auront le soutien populaire. 9000 spectateurs. Meilleur stade de Ligue 2. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce classement.
Oui, mais c'est mérité. Vu l'ambiance tout au long de la saison, c'est vrai.
C'est vrai que c'est souvent une très bonne ambiance, et il y a 3 victoires de suite évidemment à Lebasser, donc le maintien passera par une victoire. On n'imagine rien d'autre hein, ce soir du côté mayennais face à Nîmes, tu l'as dit, relégué, et qui n'a que 16 joueurs sur la feuille de match, donc quand même là faut pas se rater pour les Lavallois. La compo, on aura donc Alexis Sauvage, c'est du classique hein. Sauvage dans les buts, défense à 5, Dembo Stil, Maxime Baudry, Johan Tavares, Brian Goncalves et Edson Sedou, Jimmy Roy le capitaine de retour depuis 2 matchs, et Jordan Adeoti au milieu de terrain, Zakaria Nedji l'Algérien à gauche, Antonin Bobichon à droite, et Simon Elisor que tu connais bien, l'infiltré évidemment, qui a 7 buts de passe quand même en 5 mois, qui fait énormément de bien au Lavallois, qui sera à la pointe de l'attaque du côté de Nîmes. Ce sera le jeune Amjad Nazi, premier match en pro dans les buts, une défense avec Guessoum, Durand, de Gévinier, Giga, Burner, Fofana, Zerkan au milieu de terrain, 3 attaquants milieu de terrain, Saïd Benezet, Pablo Pagis et Malik Chokounte en pointe pour l'équipe de Frédéric Bompard, bon, qui n'a plus rien à jouer.
Eh oui.
À part peut-être l'honneur, encore que, on verra comment ils vont se comporter ce soir ici.
Et on suivra ce match avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Donc, ce Laval-Nîmes, coup d'envoi, 20h45 dans 7 minutes sur RMC. On suivra également ce Caen Saint-Etienne avec Christophe Lécuyer. On y sera pour la belle fête réservée à Stéphane Moulin. C'est une belle affiche sur le papier, mais peu d'enjeux sportifs. Et on revient dans un instant, l'After Live spécial Ligue 2. Tous les enjeux de la soirée, tous les matchs en direct et en intégralité. On fait une pause et on revient tout de suite.
RMC, l'After Live.
Benoît Boutron.
20h42 sur RMC, c'est la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2 ce soir avec Sébastien Piocelle jusqu'à 23h, de l'enjeu en haut et en bas du classement. 3 clubs pour la montée en Ligue 1. Le Havre leader avec 71 points, Bordeaux deuxième avec 69 points, Metz troisième avec 66 points, et puis en bas de tableau, ça part d'Amiens 12e jusqu'à Laval 18e. Tous ces clubs luttent encore pour leur maintien en Ligue 2. On rappelle que Nîmes et Niort sont d'ores et déjà relégués en national. L'enjeu, c'est donc la montée en Ligue 1. On vous rappelle les conditions donc pour ces différents clubs, pour Le Havre, pour Bordeaux et pour le FC Metz. Les Havrais, qui sont en déplacement à Bastia, seront promus si jamais ils s'imposent, quoi qu'il arrive. Et s'ils font match nul, eh bien les Havrais pourraient monter également si jamais Metz ne parvient pas à s'imposer à Sochaux. Pour Bordeaux, c'est également possible de monter dès ce soir s'il y a victoire à Annecy. Et si dans le même temps, Metz n'arrive pas à gagner à Sochaux, Bordeaux peut même monter avec un match nul à Annecy si jamais Metz perd à Sochaux. Et puis on rappelle, dans le bas de classement, la seule info qu'on pourra tirer de cette 37e journée de Ligue 2, elle est pour Laval. Laval qui est 18e. Si Laval perd contre Nîmes et que dans le même temps Dijon, Valenciennes et Annecy s'imposent, Laval sera relégué en national. 20h44 sur RMC. Allons prendre la température à Fourian. Julien Pernich, quelle est l'ambiance entre Bastia et Le Havre?
C'est bouillant, le public de Fourian pour la dernière du Sporting cette saison à domicile. Il est là, 13 000 personnes, la plus grosse affluence de la saison face à une équipe du Havre qui s'est pris les pieds dans le tapis lors des deux derniers matchs, qui pensait venir jouer le titre à Fourian, et au final ils n'ont pas encore acquis la montée, et ça va être le véritable enjeu ce soir pour Le Havre, acquérir la montée du côté d'un Fourian incandescent avec une équipe bastiaise qui a envie de finir 4e. Régis Broir a annoncé la couleur, le coup d'envoi n'est pas encore donné, mais en tout cas il y aura de l'enjeu pour les Havrais.
Il y a du vent, Julien, ce soir à Fourian.
Oui, beaucoup de vent, beaucoup de vent comme d'habitude.
Ouais.
Bon. Il y a des montagnes vers la mer, voilà.
Et ouais, t'as mis quelque chose autour de ta gorge pour pas tomber malade?
Là, c'est nickel, tout va bien. Bon. C'est la voix de gala ce soir.
Parfait. 20h44, ce sera le match fil rouge. On suivra avec beaucoup d'intérêt ce Annecy-Bordeaux, ce match entre Sochaux et Metz. On est également sur la rencontre entre Caen et Saint-Etienne, Laval-Nîmes ou encore Dijon. Paris FC. Restons à Fourian, honneur au leader. Bastia face au Havre, Julien Pernich.
Tout à fait, avec des Bastiais qui vont donner le coup d'envoi dans quelques secondes.
C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti à Laval.
J'adore.
Excellent. C'était un faux départ d'ailleurs.
Ah bah non,
c'est à Sochaux.
Faux départ, on est disqualifié normalement.
Eh ben ouais, alors là ça va être Bordeaux qui va être disqualifié parce que je sais pas pourquoi le coup d'envoi doit être. Bon. Eh ben cette fois-ci c'est parti.
Parfait. Est-ce que c'est parti à Fourian, Julien Pernich?
Eh oui, c'est parti depuis 18 secondes exactement entre les Bastiais et les Havrais. Des Havrais qui, on le sait, sont handicapés par des suspendus, par des blessés de dernière minute comme Alioui en attaque qui ne sera pas de la partie. Et Christophe nous le disait, Mahmoud et Casimir, ils ont pas beaucoup marqué cette saison et c'est à eux que revient la tâche offensive ce soir du côté du Havre. 40 secondes, toujours 0-0 entre Bastia et le Havre, mais ça promet très
c'est
clairement.
C'est parti au Parc des Sports d'Annecy entre Annecy et Bordeaux, Edouard G.
Oui, avec une belle ambiance, hein, toujours 0-0, une belle ambiance donnée par les 13 500 spectateurs, mais il y a aussi les ultras de Bordeaux qui sont là, qui ont mis une belle banderole, des rêves plein la tête, des étoiles dans les yeux. Voilà ce que mettent les supporters ultras de cette équipe de Bordeaux. Ils rêvent bien évidemment 380 jours après la descente officielle l'année dernière de Ligue 1 à Ligue 2, et bien d'une remontée. Il faut pour cela faire, on l'a dit, hein, faire mieux que Metz ce soir, et pour l'instant c'est vraiment parti au petit trot. Bon. Les Bordelais qui se passent le ballon là entre défenseurs centraux et gardien de but. Une minute de jeu, 0-0.
La première bonne note de la soirée, elle est pour le jardinier de Bonal, Sochaux-Metz. C'est parti, Patrick Muller.
Petit exploit en effet, mon cher Benoît. 1 minute 20 dans cette rencontre, 0-0. Un premier ballon peut-être dans la profondeur pour le FC Metz avec Georges Mikotadze qui va être servi. Le relais avec Kofi Kouaou. Ça va combiner dans la surface de réparation avec Endoram. Il n'a pas réussi à se retourner et à contrôler correctement ce ballon. Les Sochaliens qui vont pouvoir repartir. Belle ambiance malgré tout. C'est sûr que c'est pas l'affluence des grands soirs compte tenu du contexte sochalien. Mais il y a quand même voilà, les ultras jaunes et bleus qui nous ont sorti un petit message vindicatif. Je cite, honorez notre club ou barrez-vous. Et de l'autre côté, voilà, il y a au moins 1000 Messins, sans doute un petit peu plus. Faut dire qu'il y a quelque chose comme 230 km entre Sochaux-Montbéliard et Metz. Et donc une présence en nombre pour ce match avec un gros enjeu bien évidemment pour le FC Metz. 2 minutes de jeu, 0-0 entre Sochaux et Metz.
Il est 20h47, vous écoutez RMC, l'After Live spécial Ligue 2 pour la 37e et avant-dernière journée. Je vais pas vous mentir, devant nous avec Sébastien Piocel et Johan Bredov, on a 8 télés, 8 écrans avec tous les matchs.
Faut suivre.
Hein. Tu regardes quoi, Sébastien, pour l'instant là?
Je regarde Bastia Le Havre, c'est juste devant là. Donc je regarde les leaders pour voir si démarre bien la rencontre.
Bon, on va finir notre tour des stades. On va se concentrer sur la lutte pour le maintien avec ce Dijon Paris FC, Fred Joly.
Oui, avec 2 minutes 40 de jeu. Est-ce que vous avez vu la frappe d'Alain Vie ou pas?
Attends, je tourne ma tête à gauche.
Ah, oui. Bravo. Ça y est, vous l'aviez vu. Bon, d'accord. Donc la frappe d'Alain Vie de première occasion, elle est dijonnaise, cette frappe qui est passée à quelques centimètres du but de Filipovic, le gardien parisien, alors que c'est le PFC en possession du ballon. Et l'intervention impeccable de Touré qui est venu mettre un grand coup de pied dans cette balle pour éloigner le danger. 0-0 pour l'instant, début de rencontre équilibré, une petite occasion, elle est dijonnaise pour l'instant.
Bon, direction Laval, Laval-Nîmes, Xavier Grimaud.
3 minutes, 0-0 entre Laval et Nîmes, et les Lavalois qui déjà prennent le match comme il faut avec Elizard dans la surface. Premier poteau capté par le jeune Nasli, donc pour son premier
beau
match.
Dédoublement, hein.
Beau dédoublement, et il y a déjà eu des ballons pas mal dans la surface venu de la gauche avec un centre d'Elson Sedou. Il y a eu un corner, il y a eu un centre de la droite d'Adeoti repoussé par la défense de Nîmes. Donc voilà, les Lavalois font ce qu'il faut en tout cas en essayant de prendre à la gorge un peu cette équipe nîmoise. 0-0 malgré tout, la quatrième.
On rappelle les autres matchs en cours, Johan Bredov.
On a Guingamp-Niort, ça c'est un match sans enjeu. Mais après, c'est le maintien qui va jouer entre Quevilly-Rouen et Amiens. Amiens, en cas de victoire, s'assurer une place en Ligue 2 la saison prochaine. Rodespo, la deux concurrents directs pour le maintien qui s'affrontent. Et Valenciennes, Grenoble-Valenciennes aussi qui lutte pour rester en Ligue 2.
On suit également ce Caen AS Saint-Etienne sans enjeu sportif. Est-ce qu'il y a une belle ambiance à Dornano, Christophe Lécuyer?
Ouais, c'est ça qui est fou quand même. C'est le 5e contre le 9e. Effectivement, il n'y a plus d'enjeu sportif. Et pourtant, je suis pas loin de penser qu'on ait la plus belle affluence de Ligue 2 ce soir. Plus de 20 000 supporters d'Ornano. Match qui se déroule quand même à guichet fermé.
C'est quoi, c'est l'effet synthé à ton avis, ou c'est la dernière
d'Ornano? Alors, il y a indéniablement l'effet synthé. D'ailleurs, il y a 700 Stéphanois qui ont effectué le déplacement. Faut aussi le souligner quand même, pour un match sans enjeu disputé par leur équipe. Et puis, vous savez, il y a le côté émotionnel aussi ce soir, parce qu'on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais il y aura le départ qui s'annonce émouvant tout à l'heure. Celui de Stéphane Moulin, il sera honoré évidemment par les supporters qui ont réclamé à ce qu'il revienne sur sa décision, mais ce ne sera pas le cas. Le départ aussi de l'enfant du club, Jesse Deminguet, qui fera sûrement sa rentrée tout à l'heure. Il est sur le banc, en tout cas pour le moment. 5 minutes de jeu ici dans cette folle ambiance de Dornano, 0-0 entre Caen et Saint-Etienne.
Ouais, je suis un peu surpris sur le fait qu'ils aient envie qu'il revienne sur sa décision, parce que, bien sûr, on sait ce qui s'est passé dans la saison, mais après, en termes de résultats, en deux ans, ça n'a pas été. Ça a été moyen, on va dire.
Après, l'année a été tellement particulière, oui, là, pour ça, contexte, tellement difficile pour lui.
Il a récupéré un chantier de mine quand même. Hein. Oui, c'était compliqué. Hein. Ouais. Mais il s'est passé quelque chose entre Stéphane Moulin et les supporters. Et d'ailleurs, il a dit cette semaine que tout le monde avait essayé de le faire revenir sur sa décision. Les supporters, évidemment, mais également les cadres du vestiaire. Le président Olivier Piqueux, avec qui on sait, il s'est brouillé, évidemment. C'est 15 ans d'amitié quand même, et ça se finit un petit peu en autre boudin. Ouais. Mais également l'actionnaire, Pierre-Antoine Capton, qui a demandé à ce que Stéphane Moulin revienne sur sa décision. Il a dit voilà, j'ai mesuré l'importance de celle-ci et je ne reviendrai pas dessus. C'est donc le dernier match ce soir ici à Dornano de Stéphane Moulin à la tête du Stade Malherbe.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a amitié de longue date depuis les années à Angers entre Moulin et Piqueux. Et lorsque Moulin a subi un drame personnel, eh bien, il a appris qu'Olivier Piqueux, son président, avait pris contact avec certains autres entraîneurs. Voilà, pour pourquoi pas le remplacer si jamais Stéphane Moulin ne revenait pas. Décision que plutôt contact qu'il n'a pas digéré. Donc voilà, c'est aussi lié à ça, cette brouille entre Moulin et Piqueux à Caen. 20h51 sur RMC, retour à Fourier. Bastia Le Havre, Julien Pernich.
6 minutes tournant, toujours 0-0 entre Bastia et Le Havre. Et pour l'instant, ce sont les Bastiais qui dominent plutôt cette rencontre. Ce sont eux qui sont allés plutôt dans la surface havraise. Des Havrais qui, lorsqu'ils ont le ballon, temporisent en défense. Ils n'ont pas pour le moment de véritable clé offensive. C'est normal parce qu'ils ne sont pas habitués à cette organisation offensive, en tout cas à ces joueurs-là titulaires, les joueurs de Lucas Lesner.
Tu les as entendus, les Havrais, Julien ?
Oui, très clairement. Très clairement, parce qu'ils savent qu'ils sont en train de se prendre le pied dans le tapis. Il y a une semaine, il y a eu un exemple. Marty qui s'est pris les pieds dans le tapis à Bourgogne au national, et qui sont en train de se rater la montée en national. Donc c'est pas loin
on
de Bastia.
Ça veut dire,
il faut faire très attention, surtout que Fourian est quasiment à guichet fermé ce soir. Tribune Nord, Tribune Sud à guichet fermé, Tribune Est aussi. Donc voilà, les Bastiais, ils sont mobilisés face au Havre. Attention, les Bastiais, peut-être une occasion avec Franck Magri. Il est bien contré par la défense Havre. Toujours 0-0 entre Bastia et Le Havre.
La première photographie du classement à 20h51 après 6 minutes de jeu. Si les scores en restaient là, bon, évidemment, on espère que ça va bouger, parce qu'il y a des 0-0 partout sur les 10 matchs. Mais si les scores en restaient là, sachez que Le Havre serait promu en Ligue 1, puisque si jamais Le Havre ne gagne pas ou même perd à Bastia, si dans le même temps Metz ne gagne pas à Sochaux, eh bien Le Havre sera promu en Ligue 1. Allons voir justement ce que donnent les Messins à Sochaux, Patrick Muller.
Eh bien, ils sont un peu dominés, mon cher Benoît. 6 minutes de jeu, 7 minutes plus exactement à Bonal, 0-0 bien sûr. Un temps fort, ou en tout cas une bonne séquence de la part du FC Sochaux, qui semble jouer assez libéré finalement. Hein. Et puis on parlait effectivement d'une hécatombe de beaucoup de titulaires habituels qui ne sont pas disponibles. Au final, l'équipe a plutôt fière allure. Attention à ce ballon pour le coup qui me fait mentir. Cette remontée de balle des Messins, en l'occurrence, c'était Abdaye Diallo. Il a déposé 1, 2, 3 Sochaliens. Il a fait commettre une faute au jeune Meda. Et ce sera le premier carton jaune sorti par monsieur Petit. Et donc les Messins qui sont relativement dominés pour l'instant après 7 minutes.
Je viens de voir une opportunité anécienne face à Bordeaux, Edouard G.
Ouais, 8 minutes de jeu, toujours 0-0 avec un déboulé, une belle récupération de balle au milieu de terrain. Et puis Bossetti qui va décaler Kevin Testu. Et celui-ci va mettre un petit peu au supplice la défense bordelaise. Et il va réussir le premier crochet, mais pas avoir assez de vitesse pour prendre justement de vitesse la défense bordelaise. Mais il y a une possibilité, l'ouverture du score pour les Anessiens sur cette belle montée sur le côté gauche. Et je crois que c'est Vincent Pajon qui va marquer le premier but de cette partie. Donc sur cette première accélération, la deuxième, puisque la première, je vous la comptais juste avant, 8 minutes de jeu et donc ouverture du score pour les Anessiens. Alors c'est un petit peu loin, mais j'ai l'impression que c'est Vincent Pajot qui va récupérer.
Pajot, étrangement seul dans la surface de réparation d'ailleurs. Résultat important, en tout cas ouverture du score.
Du score pour Annecy.
Pour les deux équipes, Annecy qui ouvre le score, Annecy qui lutte pour ne pas descendre en national. À l'heure où on se parle, Annecy remonterait à la 12e place. Bordeaux est mené à Annecy. Bordeaux est pour l'instant à 69 points. Metz ne prend qu'un point à Sochaux. Donc Metz est toujours troisième avec 67 points. Mais attention, les Bordelais se mettent en danger. Ils sont pour l'instant tout de même deuxième de Ligue 2. Surprenant cette ouverture du score à Étienne.
Sur une récupération au milieu de terrain. Mais moi, ce qui me surprend, c'est je vois se prendre Sergio quasiment en train de marcher. Alors que tu disais étrangement seul Vincent Pajot. Et c'est parce que Franck Sergio le regarde, tout simplement.
Exactement.
Ouais. Et j'allais vous dire juste avant que la première action de Kevin Testu et puis derrière ce but, il y avait vraiment un petit rythme imposé par les Bordelais. Et là, en fait, ils étaient tranquillement en train de repartir. Et puis cette bonne sortie de Gabi Jean, et bien ce ballon en profondeur les a pris vraiment à revers. Et bien derrière, c'est Steve Chamal qui va donc centrer pour Vincent Pajot, qui était tout seul. 1-0 donc à la 10e désormais.
Il est 20h55, vous écoutez RMC l'After Live spécial 37e journée de Ligue 2. Le point sur tous les scores, justement, Bastia Le Havre, Julien Pernich.
Toujours 0-0 entre Bastia Le Havre, domination bastiaise.
Annecy, Bordeaux, Edouard G.
1-0 à la 10e minute, le but de Vincent Pajot.
Sochaux Metz, Patrick Muller.
10 minutes de jeu, 0-0. Et Vincent Pajot est un ancien joueur du FC Metz.
Évidemment, ouais, il est obligé de le signaler celui-là. Dijon, Paris FC, évidemment, il rend service au Messin. Dijon, Paris FC, Fred Joly.
0-0 après 10 minutes de jeu à Gaston Gérard.
Il rend surtout service à Annecy pour l'instant. Laval, Nîmes, Xavier Grimaud.
La 10e, toujours 0-0. Et Simon Elisor qui a cru peut-être aller au but, mais magnifique plongeon dans les pieds d'Amjad Nazi, le jeune gardien nîmois qui a empêché Elisor de marquer. Toujours 0-0.
Quand AS Saint-Etienne, Christophe Lécuyer.
La 11e minute de jeu ici à Dormano, 0-0.
Et puis les autres matchs en cours, Johan Bredov.
0-0 entre Rodez et Pau, 0-0 également entre QRM et Amiens. Pas de but entre Valenciennes et Grenoble. Et pas de but non plus entre Guingamp et Niort. 11e minute de jeu.
Un moment important à venir, Johan, tu vas te tourner sur ta droite. Un pénalty pour le Pau FC. Apolle Lignon sur la pelouse de Rodez. Important parce que Pau lutte pour ne pas descendre en national. Et donc il va être frappé d'ici quelques secondes. Hein.
Ouais, ce pénalty qui va être tiré à la 11e minute de jeu par les Palois. 1-0, je vous en parle. Enfin, 0-0, je vous en parlais justement de ce match entre deux équipes qui luttent pour le maintien. C'est frappé, parfait, à contre-pied le but. Begraoui qui ouvre le score pour les Palois. 1-0 sur la pelouse de Rodez à la 12e minute de jeu dans ce match si important dans la lutte pour le maintien.
Et l'autre but de ce début de soirée, c'est donc pour Annecy qui mène 1-0 face à Bordeaux. On skip quelques secondes et on revient pour la suite de tous ces matchs de la 37e journée de Ligue 2 avec le grand Sébastien Coussel. À tout de suite sur
RMC. L'After Live.